Lizzie présente Les Assassins de l'Aube de Michel Bussy, lu par Alex Fonja. Il n'est pas question de livrer le monde aux assassins d'aube. La vie mort, la mort vit, les souffleteurs de crépuscule. Les routes pendent à leurs coups d'écorcheurs, comme des chaussures trop neuves. Il ne peut s'agir de déroute, seuls les panneaux ont été de nuit escamotés. Pour le reste, des chevaux qui n'ont laissé sur le sol que leurs empreintes furieuses, des mufles braqués de sang lapé, le dégainement des couteaux de justice, et des cornes inspirées, des oiseaux vampires tout bec allumé, se jouant des apparences, mais aussi des saints qui allaitent des rivières, et les calebasses douces au creux des mains d'offrande, une nouvelle bonté ne cesse de croître à l'horizon. Aimé Césaire, nouvelle bonté. Moi, Laminaire. Le Seuil, 1982. Dimanche 7 avril 2024. Le bétonneur de l'aube. Chapitre 1. Grand cul de sac marin, 6h30. Jacob Santamaria barbote comme un bébé potelé. Un bel enfant de 60 ans et de plus de 100 kilos. Il a toujours aimé l'eau. L'eau rend plus léger ceux qui ne le sont pas. L'eau protège du regard des autres, jusqu'au cou. Même quand l'océan est si peu profond. Le grand cul de sac marin, c'est maximum 5 mètres de fond, le plus souvent 1 mètre ou 2. Presque un lagon. Jacob soulève son masque et plante ses pieds dans le sable. Il prend le temps d'admirer l'océan transparent à perte de vue et la ligne bleue horizon que quelques arbres découpent en pointillés. Les palétuviers semblent marcher sur l'eau. Il leur suffit d'un banc de sable pour pousser et former des îlets au nom de rêve. Il est mangue à l'orette. Petite biche, crabière, blanc. Sans compter tous ceux, trop jeunes, que nul n'a encore baptisés. Quelques vagues suffisent pour que le sable affleure. Un ou deux mois suffisent pour que les racines échassent, poussent et fixent une nouvelle oasis. Jacob se retourne. Face à lui, plein sud, s'étend la mangrove. De Baie-Mahau jusqu'à Petit Canal. La plus grande des petites Antilles. Une forêt sur pilotis. Un labyrinthe inextricable d'arbres en équilibre au-dessus de la mer. Un paradis pour les crabes, une nurserie pour les oiseaux. Jacob contemple, presque incrédule, la beauté sauvage du paysage. Il a beau chercher, il ne distingue pas le moindre toit, pas le moindre ponton. Rien. Un rêve. Un véritable Éden inviolé. Jacob frissonne. Les balistes prennent ses palmes jaunes pour des coraux et se faufilent entre ses mollets. Oui, Jacob rêve. Il observe la mangrove pour l'imprimer aussi fort qu'il le peut dans son esprit. Puis il ferme les yeux. Alors, petit à petit, sur l'écran noir de ses paupières fermées, le rêve devient réalité. Posé sur un banc de sable, adossé à un palétuvier, il imagine sur chaque îlet une paillote, en bois de padouk, avec une grande baie vitrée et un jacuzzi pour les plus luxueux. En versant quelques tonnes de sable supplémentaire dans la mer et en y plantant quelques milliers de palétuviers, il pourrait facilement tripler le nombre d'îlets. Quant à la mangrove face à lui, il l'a déjà défrichée dans sa tête pour pouvoir y bâtir le grand cul de sac marin Resort Club, le plus grand complexe hôtelier des Antilles. Des centaines de chambres au cœur de la jungle aquatique, 3 piscines et une ronde de kiosques les pieds dans l'eau pour y déguster des langoustes grillées. Jacob ouvre doucement les yeux. La mangrove est toujours là, puissante et résistante, presque méprisante. Elle se sait protégée par un empilement insensé de dispositifs. Réserve naturelle, parc national, sanctuaire inscrit à l'UNESCO, zone humide d'importance internationale. Et après, qui peut lui interdire de rêver? Il y a 50 ans, sans que personne ne proteste, on a construit l'aéroport de la Guadeloupe sur la mangrove. Les tentacules de Pointe-à-Pitre et la Grignote, lotissement après lotissement sans que personne ne s'en émeuve. D'autres îles des Caraïbes ne se sont pas embarrassées de ces fausses pudeurs écolo. Sainte-Lucie, Aruba, la Barbade. Et ça n'empêche pas les touristes de s'y entasser. Jacob ne peut se retenir de sourire. Il s'était pourtant juré de ne jamais retourner en Guadeloupe. Il s'était promis de construire partout des paillotes sur pilotis, même à Cuba ou à Haïti, mais jamais ici. Qui peut dire jamais en affaire? Janet n'est plus qu'un lointain souvenir, un beau et triste regret. Il écarquille les yeux et tente d'apercevoir son yacht au large, au-delà de la barrière de corail. Quand on vieillit et que la vie vous a souri, les regrets ne sont que de jolis tableaux accrochés sur des murs dorés. Damien et Alan l'attendent sur le pont du Karukira. Damien ne nage plus depuis des années. La dernière fois qu'elle s'est baignée en mer des Caraïbes, on y trouvait encore des lamantins. Jacob baisse à nouveau son masque, souffle dans son tuba. Il a le temps. Tout son temps. Il n'a acheté son yacht que pour cela. Jeter l'ancre dans les plus beaux mouillages de l'Atlantique, sans que Damien n'ait besoin de lever ses fesses de son transat. Il nage. Il n'a jamais vu autant de poissons l'accompagner. Pas même à Pawnee Beach ou à Harbour Island. Un poisson perroquet bleu fluo se laisse approcher aussi facilement qu'un chien apprivoisé. Ils n'attendent que ça, pense Jacob. Être observé, admiré, photographié. Sinon, pourquoi Dieu les aurait-il autant coloriés? Jacob a toujours été persuadé que la preuve du divin se trouve dans les merveilles de la nature. Respecter le sacré, c'est permettre à des hommes et des femmes de les contempler. Comment qualifier de sanctuaire un endroit dont l'être humain serait chassé? Une ombre lui vole un instant le soleil. Il lève les yeux. Une barque au-dessus de sa tête. Un zodiaque équipé d'un petit moteur. Sans doute un pêcheur. Jacob se reprend à rêver. Les touristes peuvent cohabiter pacifiquement avec les poissons. Ils nagent avec une GoPro, pas avec un harpon. Ils se contentent de la dorade ou du thon qu'on sert dans leur assiette, élevé loin du sanctuaire. Loin du grand cul de Sac Marin Resort Club. Il repense à ce type qui lui assurait qu'il y avait une faille dans le système de protection de la mangrove, qu'en insistant sur le respect des normes environnementales, les emplois créés, la concurrence avec les îles voisines qui n'ont pas autant de scrupules, certains élus seraient prêts à se laisser tenter. Il a eu du mal à le croire, mais... Jacob a repéré le pêcheur. Il serpente quelques mètres devant lui, fusil harpon à la main, lui adresse un petit signe du bras, puis s'éloigne. Jacob nage à présent dans un aquarium. Poisson ange, chirurgien, sergent-major. Des dizaines de poissons aussi multicolores que minuscules. Qu'est-ce que ce pêcheur espère bien harponner? Une brochette de poisson clown? Croit-il tomber nez à nez avec un marlin ou un mérou par si peu de fond? Jacob sent soudain une présence dans son dos. Il se retourne aussi vite qu'il le peut, mais étrangement, il a déjà compris. Le mérou, c'est lui. Le pêcheur est à 3 mètres. Jacob ne distingue qu'un corps fin moulé dans une combinaison néoprène, une bouche déformée mordant un tuba, 2 yeux flous derrière un masque de verre. 2 yeux déformés par la colère. 2 yeux qu'il n'a jamais vus, à moins que... La douleur lui déchire le poumon. Il n'a pas vu la flèche partir, il ne comprend qu'en voyant le canon vide. Le lagon devient rose. Ses mains tremblent et tâtonnent, se referment sur le harpon. Un instant, il se demande s'il doit ou non l'arracher. Un instant de trop, il n'en a déjà plus la force. Il sent son corps s'échouer, 2 mètres plus bas. Son tuba s'emplir d'eau sans qu'il n'ait la force de la recracher. Son cœur repose sur le sable. Les grains forment une fleur rouge aussitôt soufflée. Son sang s'échappe. De l'eau salée le remplace, empoisonne ses veines, ronge sa gorge. Jacob ne voudrait plus penser qu'au passé, qu'à ce qu'il y a de plus beau, qu'à ce qu'il veut emporter. La seule fois qu'il a aimé. Il ne voudrait penser qu'à Janet, se persuader qu'il va la retrouver. Il cherche son visage, quelque part dans ses pensées noyées. mais seul celui de sa femme apparaît, incrusté dans les derniers lombeaux de sa lucidité, impossible à chasser. Damien refuse de laisser une autre qu'elle lui dire adieu. Faut-il qu'il meure pour comprendre qu'il était amoureux? Lentement, il ferme les yeux. La route s'arrête. Cul de sac, marin.